Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
C'est la diplomatie du ping-pong qui avait annoncé au monde en avril 1971 que Washington et Pékin s'engageaient dans la voie de la détente. En invitant ensuite, un an plus tard, Richard Nixon et son épouse à Pékin, Chou En-lai et Mao Zedong ouvraient la voie à la coopération économique et scientifique entre le pays le plus peuplé du monde et celui que Mao qualifiait jadis de « tigre de papier ».
En 1971, les États-Unis dirigés par Nixon s'embourbaient dans la guerre du Vietnam. Quant à la Chine de Mao, elle vacillait sévère après la violente saignée imposée par la révolution culturelle. Les deux superpuissances étaient sous pression, il leur fallait un peu d'air et rééquilibrer les forces face à l'Union soviétique. C'est alors que le ping-pong a fait son entrée sur le front de la guerre froide, une histoire à peine croyable entre un jeune hippie californien et un gamin des quartiers pauvres de Pékin. Alors à notre table cette semaine pour disséquer cette diplomatie du ping-pong au printemps 71, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord Yvan Gasteau, historien du sport, il enseigne à l'université de Nice. Bonsoir Yvan.
Bonsoir Philippe.
Et bienvenue. Et à ses côtés, à vos côtés, Nicolas Herbelot, journaliste, reporter à l'équipe. Il vient de consacrer un dossier complet à cette géopolitique du ping-pong apparue il y a tout juste 50 ans. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi.
Merci.
Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, le groupe californien Weezer, fan de soccer. Vous êtes bien sur Inter, dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, Richard Nixon, Mao Zedong et la table de ping-pong.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on débute par où toute cette histoire diplomatique a commencé. À Nagoya, au Japon. Nous sommes donc au printemps 1971 et une équipe de l'ORTF a suivi les 31e championnats du monde de ping-pong. Les pongistes français y participent et les commentateurs nous offrent un compte-rendu des épreuves. Mais pour l'instant, personne à Paris n'évoque le rapprochement sino-américain.
Nous allons un peu voyager pour cet hebdomadaire aujourd'hui et voyager du côté du Japon. En ce moment, à Nagoya se déroulent les championnats du monde de tennis de table, un sport dont on a assez peu souvent l'occasion de parler, il faut bien le reconnaître, et qui pourtant passionne pas mal de jeunes gens, puisqu'il est pratiqué quand même par une grande majorité de jeunes gens, en France notamment. Des Français, Daniel Casal, sont d'ailleurs allés jusqu'au Japon pour défendre les couleurs françaises.
Oui, les 31e championnats du monde de tennis de table, ouverts samedi à Nagoya au Japon, vont s'achever aujourd'hui avec la finale Japon contre Chine populaire. 42 nations participe à ces championnats. Vous le voyez, la France est présente. Et l'équipe de France féminine, avec Martine Rioual, Claude Bergeret et Sonia Morisseau, a terminé à la 11e place. Quant à l'équipe de France masculine, avec ce crétin, les frères Weber et Dont, elle s'est classée 7e. Ces championnats ont été marqués par la rentrée sur la scène internationale de la Chine populaire, qui avait cessé toute compétition depuis 1966. Et pendant que le français Weber affronte un adversaire philippin, voici quelques renseignements techniques sur le tennis de table. La table est longue de 2,74 m et large de 1,52 m. Son plateau est placé 76 cm au-dessus du sol. Le filet que vous apercevez a une hauteur de 15,25 m. La balle est en celluloïde. Son poids doit être compris entre 2,40 g et 2,53 g. Ce sont là des chiffres très précis, tout comme est précis ce sport qui exige, vous voyez, une certaine adresse, un coup d'œil et un réflexe de la part des joueurs qui le pratiquent. Chez les femmes, l'équipe de France, je vous l'ai dit, s'est classée 11e et le titre est revenu aux Japonaises qui, en finale, ont battu les Chinoises. L'équipe japonaise était composée de mademoiselle Kawada Ozeki Oba et l'équipe chinoise de mademoiselle Cheng Minqin Li Wenqing et Cheng Minqin.
Et oui, Daniel Casal s'appliquait à bien prononcer les noms des pongistes chinoises.
Pas évident.
C'était pas évident, évidemment, en effet. Ces pongistes chinois et chinoises, des champions, en effet, de retour en compétition après 5 ans d'absence. Voici donc l'histoire du dimanche soir. En août 1932, la République de Chine, pas encore communiste, envoya un athlète, un seul, Liu Changchun, afin que ce sprinter participe aux 10e Jeux Olympiques organisés à Los Angeles, en Californie. Ce fut la toute première apparition d'un sportif chinois dans une compétition olympique. Et Liu Changchun a fini 5e sur l'épreuve du 100 mètres. 4 ans plus tard, en 1936, lors des Jeux nazis à Berlin, il y eut 54 participants chinois. Et en 1948, aux JO de Londres, alors que la guerre civile entre nationalistes et communistes faisait rage en Chine depuis 1927, il ne furent que 26 athlètes. Et puis, l'année suivante, en 1949, l'Empire du Milieu a basculé dans une nouvelle ère.
En Chine, la retraite des nationalistes est générale. Les troupes du gouvernement de Nankin laissant la place, une place chaque jour un peu plus large, aux armées communistes de Mao Tse-tung. Refuant en même temps des dizaines de milliers des habitants des provinces envahies ont été jetés sur les routes de l'exode. Voici 22 ans cependant, le maréchal Chiang Kai-shek était accueilli comme un sauveur par les acclamations et les louanges d'un peuple qui attendait tout de lui. Aujourd'hui, Chiang s'est retiré du gouvernement pour faciliter la paix et s'apprête à l'exil. La Chine tourne une page.
Yvan Gasteau, je rappelle que vous êtes historien. La République populaire de Chine fut proclamée en octobre 1949. Mao Zedong s'est emparé du pouvoir. Pour commencer, Yvan, quelle attitude la Chine communiste a choisi d'adopter vis-à-vis des compétitions sportives internationales dans les années 50 et 60?
C'est une attitude assez complexe parce que d'un côté la Chine, au diapason de l'URSS, hein, les deux nations sont au départ liées. Ils ont compris, hein, ces deux pays, que le sport est un élément essentiel et donc ils ont vocation à apparaître sur le devant de la scène internationale. Et donc il y a une apparition au moment des Jeux Olympiques de 1952, Jeux Olympiques de 1956. Mais constamment pour la Chine, il y a une pollution, hein, dans cette participation, dans la mesure où il y a deux Chines. Hein. Il y a la Chine populaire représentée par Mao et il y a la Chine on dit à l'époque Taïwan, hein, qui elle aussi revendique le label chinois. Et donc il y a toute cette confusion qui existe à ce moment-là. Et ce qui est important là, c'est que le régime utilise le sport à des fins hygiénistes. Hein, beaucoup d'activités qui sont faites pour le peuple. Hein, je pense notamment à la leçon de gymnastique tous les matins, hein, par exemple. Mmh. Mais aussi des manifestations sportives dans le but d'éduquer le peuple. Mais en matière olympique, il va y avoir un tournant qui est très important. C'est effectivement le tournant de la révolution culturelle, hein, c'est-à-dire au moment où en 1966 se met en place la révolution culturelle, le sport et surtout les athlètes de très haut niveau sont considérés comme des personnages suspects, des personnalités suspectes. Et donc il va y avoir cette interruption qui est importante parce que la Chine avait commencé à exister, et c'est ça qui est vraiment dans notre sujet, à l'échelle des compétitions internationales, pas tellement par les Jeux Olympiques, mais surtout par justement le tennis de table. Il faut juste savoir, Philippe, que le tennis de table, on a souvent tendance à considérer le ping-pong que c'est une origine asiatique, chinoise. En fait, pas du tout. Le ping-pong, le tennis de table est né à peu près au même moment que le tennis tout court, du côté de l'Angleterre, du côté de l'Europe. Et les Chinois vont s'approprier ce sport justement à ce moment-là. Il y a un moment très important. En 1961, un championnat du monde que organise la Chine de tennis de table chez elle à Pékin, et les Chinois vont remporter ces championnats du monde par équipe, et ça va être un moment très important parce que la Chine va s'affirmer en pleine période justement de début de guerre froide sur ce sujet avec une certaine autorité, on pourrait dire, hein, avec des champions qui vont émerger, mais ces champions vont être perturbés par la révolution culturelle qui va porter un coup d'arrêt qui, comme vous l'avez dit, a duré quelques années avant que n'apparaisse ou ne réapparaisse cette équipe au Japon pour ce championnat du monde si emblématique.
Yvan, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez aussi nous rappeler quels ont été les rapports de la République populaire de Chine avec les États-Unis dans les années 50-60? Nous sommes en pleine guerre froide. Est-ce que le professeur d'histoire peut nous rappeler justement en quelques mots quelles sont l'essence de cette relation complexe, Yvan?
Oui, alors c'est une relation très complexe, hein, qui est une relation qui est d'abord fondée sur quelque chose d'assez clair, c'est la haine, si on peut dire. Hein, surtout au moment où la Chine et l'URSS sont très proches, et il y a une sorte de de proximité avec un ennemi commun que représentent les États-Unis. Et puis on le sait bien, la guerre de Corée entre 1950 et 53 va caractériser un sommet, on pourrait dire, de cet affrontement Est-Ouest, la Chine et l'URSS soutenant la Corée du Nord, alors que les États-Unis, eux, évidemment, soutiennent la Corée du Sud. Mais les choses vont un petit peu changer à partir de la fin des années 50, début des années 60. Je crois que le point de départ, c'est la brouille qui va exister entre les Soviétiques et les Chinois, qui change un petit peu la donne, qui la rend plus compliquée, en quelque sorte. Hein, mais il y a aussi, au moment de la révolution culturelle, une manière de réviser cette position très abrupte vis-à-vis de l'ennemi américain et d'envisager éventuellement des portes de sortie qui seraient bénéfiques d'ailleurs à la Chine et aux États-Unis tous deux.
Alors Nicolas Herbelot, ces États-Unis et cette Chine, République populaire de Chine, vont donc à la fois s'affronter et s'ignorer pendant 20 ans. Or, ils vont le laisser déjà sous-entendre, au début des années 70, ces deux pays, ces deux superpuissances traversent chacune des périodes compliquées, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur des frontières.
Ben, d'un côté, effectivement, les États-Unis sont embourbés dans la guerre du Vietnam. Et Nixon a en point de mire la réélection qu'il espère en 72, donc il en a ras-le-bol franchement de toute la contestation interne et du fait que tous les médias américains ne parlent que de ça tous les jours. Et de l'autre côté, effectivement, comme le disait Yvan, à la fin des années 60, il y a même des affrontements meurtriers sur la frontière entre la Chine et l'Union soviétique, des affrontements militaires. Donc eux cherchent aussi à s'ouvrir et ils cherchent eux aussi de nouveaux alliés.
Alors Nicolas, en 71, la Chine va accepter l'invitation du Japon à venir participer à ces championnats du monde de tennis de table à Nagoya. Yvan en a dit un mot, effectivement la Chine est une grande nation de pongistes. On dit même que Mao était un grand fan de ping-pong.
Oui, il y a un journaliste américain, Edgar Snow, qui dès les années 30 était allé en Chine communiste. Il a été le premier occidental à interviewer Mao et il racontait dans son bouquin à la fin des années 30 que lors de son séjour, dans tous les villages où il allait, il y avait des tables de ping-pong. Donc la pratique était réelle. Et ce sport présentait une particularité aux yeux des Chinois à l'époque, c'est que c'était un sport qui n'était pas du tout politique, alors que tout était politique en Chine, pas le ping-pong. Et puis en 52, le président de la Fédération internationale du ping-pong, qui était un Anglais, un personnage assez incroyable, Ivor Montagu, fait le voyage à Pékin et essaye de les convaincre d'intégrer la grande communauté internationale. Donc cette Chine, dans les années 50, va développer vraiment le sport du ping-pong pour faire d'une pratique un sport où il serait dominant. Et pour cela, ils vont se tourner en grande partie vers l'expertise des joueurs de Hong Kong, qui était à l'époque britannique. Ils vont comme ça naturaliser des joueurs de Hong Kong. Et le premier sportif chinois de toute l'histoire à être champion du monde, Rong Yuotuan, en 1959, est en fait un transfuge de Hong Kong.
Et un pongiste, donc.
Un pongiste, absolument.
Yvan, à cette compétition de tennis de table, donc ces mondiaux au Japon, il y a aussi les États-Unis qui se sont qualifiés. À quoi ressemble la délégation américaine de ping-pong à cette époque-là, Yvan Gastaud?
Alors c'est assez intéressant de montrer que les rôles sont un peu inversés. Hein. C'est que l'équipe américaine arrive avec un côté très amateur, on pourrait dire. Hein. C'est une équipe qui n'est pas professionnelle, tout simplement parce que le tennis de table aux États-Unis ne fait pas recette. C'est pas un sport très important. Il est même déconsidéré. Hein. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu de grands champions pongistes américains, hein, donc c'est pas forcément un sport important, donc du coup ça a des conséquences puisque ceux qui viennent représenter officiellement les États-Unis, et c'est là le cocasse on pourrait dire de l'histoire, sont un petit peu des pieds nickelés, on pourrait dire des amateurs qui payent eux-mêmes leur voyage, qui n'ont pas de subventions, qui c'est une équipe un peu de briques et de broc, et notamment avec des comportements un peu dégingandés, un peu hippies, cheveux longs dans ce contexte des années 1960 et 11, avec une atmosphère hédoniste. Ils sont un peu touristes, on pourrait dire, hein, lorsqu'ils viennent à Nagoya.
Nicolas Herbelot, dans quel état d'esprit arrivent, eux, les pongistes chinois?
Ah bah c'est l'opposé, effectivement. Eux, ils arrivent. Alors déjà, ils voulaient pas venir. Parce qu'effectivement, pendant ces 5 années de fermeture totale liée à la révolution culturelle, où les pongistes ont été une cible prioritaire des gardes rouges, parce qu'ils étaient supposés être en lien avec l'Occident.
Ennemis du peuple,
voilà,
bourgeois.
Tout a été inversé. Ils étaient dans l'honneur de la patrie. Ils étaient les chouchous de Zhou Enlai et de Mao. Et ils devenaient les ennemis absolus. Et c'était le déshonneur. Le sport était effectivement considéré comme quelque chose de totalement occidental
et impérialiste.
Voilà, et impérialiste, absolument. Donc eux ne voulaient pas venir.
Ils avaient la trouille.
Ils avaient complètement la trouille. Ils avaient passé, pour certains d'entre eux, plusieurs années dans des camps de rééducation où D'ailleurs, pour être nourri par les villageois alentour, ils faisaient des espèces de petites exhibitions de ping-pong. Ou d'ailleurs, on n'avait pas le droit de compter les points, hein, parce qu'attention, ça c'était capitaliste, compter les points. Enfin, ils en étaient là, quoi. Donc quand Zhou Enlai les réunit avant les championnats du monde de Nagoya pour leur dire « est-ce que vous êtes prêts à y aller ?», eh ben ils disent non.
Eh oui.
Ils disent non. Et donc la décision, elle est prise par Mao, qui leur dit « apprêtez-vous à mourir s'il le faut », parce qu'il y avait une réelle crainte, tellement ils étaient dans leur monde à eux et qu'ils se disaient que tout était possible en franchissant la frontière, mais allez-y.
Et donc ils arrivent
ils y vont pour la patrie.
À Nagoya, au Japon. Alors là, Yvan Gasteau, où c'est la beauté du sport, où c'est la, comment dire, l'organisation des services secrets, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'après une session d'entraînement à Nagoya, au Japon, que se passe-t-il, Yvan Gasteau ?
C'est donc, nous sommes ce 5 avril 1971, nous sommes dans une salle d'entraînement à Nagoya, et là, le protagoniste américain principal de l'histoire, Glenn Kovan, hein, qui est en fait un joueur très moyen à niveau international, hein, un bon joueur mais un joueur moyen, est en train de terminer son entraînement. Il joue d'ailleurs contre un joueur chinois. C'est déjà une sorte déjà d'agencement, on pourrait dire, assez étrange à ce moment-là, hein, où l'hermétisme était de règle. Puis lorsqu'il sort de cette salle d'entraînement, eh bien, il ne retrouve qu'un seul bus qu'il prend apparemment pour une navette. Il rentre dans ce bus, hein, et lorsqu'il est dans ce bus, une sorte de stupéfaction règne dans le bus, puisqu'il est dans le bus des Chinois.
Et oui.
Et c'est l'occasion, c'est l'étincelle qui va déclencher toute cette histoire, c'est que les Chinois, loin de le maltraiter ou de l'ignorer, vont commencer à l'aborder. On va lui présenter effectivement celui qui va jouer un rôle central du côté des Chinois. On en a parlé, Philippe en a parlé, c'est Zhuang Zedong, qui est donc ce joueur, le meilleur joueur de ping-pong du monde. Alors là, il était un peu vieillissant. On se demande d'ailleurs, il fait partie de l'équipe, hein, chinoise, mais il est un peu en fin de carrière, mais qui va devenir quelque part cette sorte de diplomate, lui qui avait été rabroué, violenté par le régime dans les années qui précédaient, devient une forme d'agent, on pourrait dire, de contact, puisque ce joueur dans le bus va discuter avec Kovan, lier amitié, on pourrait dire, et lui offrir un cadeau. Hein, un cadeau qui est en fait une étoffe de tissu, hein, une étole, sorte de châle qu'on mettait sur l'épaule avec des motifs des montagnes chinoises. Et effectivement, ce cadeau qui sera d'ailleurs photographié à la sortie du bus, le trajet dure une quinzaine de minutes, eh bien va susciter le point de départ de cette dimension, puisque Kovan va vouloir rendre la monnaie. Alors il a rien dans son sac de très efficace, donc le lendemain il va recontacter Zedong, hein, Zhuang Zedong, et il va lui offrir un t-shirt
blanc
aux couleurs de la liberté, de la paix, on pourrait dire, avec ce Let it be, ainsi soit-il. C'est un slogan que vous aimez bien, Philippe, hein,
oui.
Qui est rendu le lendemain comme un cadeau de retour à Zhuang Zedong.
Nicolas Herbelot, quand on entend cette anecdote qui est à la fois très belle et très mystérieuse, hein, ce joueur américain, Glenn Kovan, hippie, les cheveux longs, fumeur de marijuana, qui rentre par accident dans ce bus chinois, et tout d'un coup, Zhuang Zedong, triple champion du monde des années 60, lui offrant une étole,
c'est
magnifique.
Beau,
c'est très beau. On se dit quand même, bon, c'est super, mais Mao Zedong doit pas être très loin dans cette histoire.
Oui, ouais. C'est trop beau, effectivement, pour être vrai. On n'en doute pas un seul instant. Les Chinois avaient tout prémédité. Alors, tous les Chinois à bord du bus n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Mais Kovan avait été clairement identifié et ciblé par la délégation chinoise.
C'est-à-dire que les services secrets chinois.
Voilà, qui encadrait la délégation chinoise. Deux jours avant, il s'était pointé à la salle d'entraînement, avait demandé à un jeune chinois de jouer avec lui. Donc, il y avait eu une espèce de vent de panique dans la délégation chinoise. Le joueur, c'était l'ennemi absolu, hein, c'était le mal. Bon, est-ce que je devais jouer ? Donc, il s'est tourné vers les responsables qui lui ont dit, vas-y.
Un Californien hippie.
Et ils se sont dit, celui-là, ça peut le faire, quoi. Celui-là, il peut rentrer dans nos plans. Et donc, quand deux jours après, c'est le seul bus. Alors, c'est pas hasard, parce que les Chinois étaient les seuls à avoir leur bus à eux. Ils vivaient dans un hôtel qui était séparé des autres. Il faut se rendre compte que dans les rues de Nagoya, devant l'hôtel où logeaient les Chinois, on brûlait des effigies de Mao, etc. Hein. Donc, ils avaient tout leur circuit à eux. Donc, jamais personne d'autre qu'un Chinois pouvait monter dans ce bus. S'ils l'ont laissé monter et qu'ils ont refermé les portes tout de suite derrière, c'était parce qu'ils l'avaient identifié et qu'ils souhaitaient qu'il monte. En revanche, du côté américain, rien n'était prémédité. Les Chinois étaient convaincus au départ que leur délégation serait totalement piratée par la CIA. il n'y avait évidemment pas un seul membre de la CIA parmi ces pongistes américains.
Cela dit, Nicolas Herbelot, il y a des photos qui sont prises, évidemment, la presse est présente.
Ça fait le tour du monde,
ça fait un choc mondial tout de suite.
Et alors, dès le lendemain, c'est à la une de tous les quotidiens américains, et enfin, Nixon et Kissinger se disent « Fantastique, on ne parle plus du Vietnam ».
Et oui.
Et alors, du coup, de son côté, Mao, c'était une première... voilà, on avait lancé un peu un appât pour voir si ça mordait, ça se passe plutôt bien, ça réagit dans le monde entier positivement, y compris du côté américain. Donc, deux jours après, les Chinois, sur ordre de Mao, proposent à la délégation américaine de venir visiter la Chine.
Alors, on va voir quelles vont être les conséquences de cette diplomatie du ping-pong dans la seconde partie de l'émission. Pour l'instant, on va faire une pause musicale avec François and the Atlas Mountains. Le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Tourne autour.
Je te tourne toujours autour, même de loin. C'est étrange, même en plein jour, je ne retrouve pas le chemin. Je nous vois faire des détours, tu déjoues mes tours, ça ne fait rien. Tu ne perds rien pour attendre, silence, absence, demain. Je ne perds rien en retour, construis la tour qui de loin. Et j'y séjourne, joue la distance, prince malin. Te ferai croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains. Irai faire rire mes atours aux reines aux chairs de Satan. Reviendrai croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin. Même la cour. Chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien.
Février 72, visite historique du président Nixon à Pékin, un an après la rencontre des pongistes chinois et américains, c'est le couronnement de la diplomatie dite du ping-pong. Les présidents Nixon et Mao signent le communiqué de Shanghai. On s'engage sur la voie de la normalisation, on est décidé à mettre un terme à plus de 20 ans d'hostilité, les deux géants ne peuvent plus s'ignorer.
Philippe Collin.
Première conséquence, un coup de frein à l'indépendance de Formose. La même année, la Chine populaire entre aux Nations Unies et siège au Conseil de sécurité.
Sur France Inter.
Après ce rapprochement inouï des pongistes chinois et américains lors des championnats du monde de ping-pong organisés au Japon en 1971, les choses sont donc allées très vite. Quelques mois plus tard, en février 72, l'impensable s'est donc produit grâce à la diplomatie dite du ping-pong, si chère aux Chinois. Le président Nixon s'est rendu à Pékin pour serrer la main du grand timonier. Une rencontre pour l'histoire.
11h30 ce matin à Pékin, pour la première fois dans l'histoire de la Chine communiste, un président des États-Unis foule le sol chinois. Et d'emblée, le président Nixon a rencontré dès ce matin le président Mao Tse-tung.
Pendant une heure en effet, le chef de la Maison-Blanche a discuté avec le président Mao. Rencontre de deux mondes, confrontation du tigre de papier et du chef de la Chine rouge, en tout cas, rien n'a filtré de ces entretiens. Aussitôt après, le président Nixon rencontrait M. Chuen Lai. Là encore, Américains et Chinois sont restés très discrets. Ce soir, M. Chuen Lai a offert un banquet en l'honneur du président Nixon, un menu très régional, jugé plutôt soupe aux pousses de bambouille au blanc d'œuf, aileron de requin, œufs de 100 ans, pâté impérial, poulet à la vapeur et à la noix de coco, délices d'amandes, pâtisserie et enfin fruits.
Yvan Gasteau, je rappelle que vous êtes historien. La diplomatie du ping-pong ne fut pas qu'une affaire de gastronomie asiatique. Elle fut avant tout au service de deux dirigeants antagonistes, a priori, évidemment, entre d'un côté l'impérialiste et de l'autre le communiste. Quel fut l'intérêt de cette rencontre pour Mao et l'intérêt pour Nixon, Yvan Gasteau ?
Oui, alors, entre-temps, on sait qu'il y a eu aussi cette visite préparatoire d'Henry Kissinger, hein, l'homme fort, on pourrait dire, de la présidence Nixon, hein, qui a préparé, en venant secrètement à Pékin, pour envisager la venue de Nixon quelques mois après la visite des pongistes. Hein, donc, il y a eu trois étapes, en fait, hein, les pongistes, plus Kissinger, et finalement, tout ça est préparé, puisqu'un an après arrive donc Nixon, et un événement mondial. Hein, je crois que cette arrivée, cette visite à Pékin, ça marque beaucoup la présidence de Nixon, plutôt positivement par rapport à d'autres histoires, bien entendu. Alors, pour Mao, c'est une sortie de l'isolement, certainement, qui est un élément essentiel. C'est aussi trouver des points d'appui dans ce conflit larvé ou même plus que larvé avec l'URSS. C'est un nouveau positionnement, hein, une nouvelle donne dans les relations internationales et une mise en complexité de la guerre froide. Mais c'est surtout, on l'a entendu, une manière de prendre le pas sur l'ennemi de ce moment-là qui est Taïwan. Hein, les deux Chines. Hein, la guerre froide, c'est les deux Allemagne, c'est les deux Corées, mais c'est aussi les deux Chines avec cette île de Taïwan si importante puisqu'elle dispute à la Chine populaire la notoriété, enfin disons le siège à l'ONU, par exemple, et la dimension chinoise. Donc la Chine, grâce à cela, provoque sans doute des évolutions. Et du côté américain, eh bien, on l'a dit, Nicolas l'a dit tout à l'heure, la guerre du Vietnam finissant, on cherche de nouvelles manières d'avoir une image un peu moins froissée, se positionner davantage justement dans ce conflit entre Chine populaire et Formose de l'époque, et aussi développer des échanges commerciaux, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a beaucoup d'intérêt de part et d'autre que de faire évoluer les lignes, de faire bouger les lignes. C'est vraiment ce qui s'est passé à partir de cette diplomatie du ping-pong.
Et donc, grâce au ping-pong, il faut le redire, la Chine a récupéré son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, a récupéré son siège. Nicolas Herbelot, je rappelle que vous êtes journaliste à L'Équipe, vous avez consacré un dossier complet à cette affaire de diplomatie du ping-pong. Donc, rappelons rapidement les faits. Hein. Donc, les Chinois ont invité une délégation américaine à venir visiter le pays. Nixon, dans la foulée, un an plus tard, va venir, lui, à son tour, serrer la main de Mao à Pékin. Il faut savoir que quelques mois plus tard, ce sont les pongistes chinois qui vont venir.
On leur rend l'appareil.
Comment se passe ce voyage des pongistes chinois sur le continent américain ?
Ben, il se passe très bien, en fait. Les dés étaient déjà jetés et tout allait bien, quoi. Il n'y avait plus aucun risque. D'ailleurs, ils n'y seraient pas allés s'il y avait eu le moindre risque. C'était une grande découverte pour tous. Parmi eux, évidemment, ils n'avaient jamais foulé le sol américain. Mais ils avaient des garanties de la part des Américains. Nixon était déjà venu à Pékin. Enfin, tout s'est très très bien passé. Après, ça a été médiatiquement énorme. Énorme, partout où ils allaient, parce qu'ils ont traversé tous les États-Unis pour des matchs exhibitions, des réceptions.
Y compris le Canada, je crois.
Absolument,
etc.
L'Amérique du Nord. Mmh. Ça a été énorme médiatiquement, mais ça a disparu presque aussitôt, quoi. C'est-à-dire que Cowan rêvait que le ping-pong devienne le nouveau golf américain.
Glenn Cowan, qui était
le fameux pongiste à l'origine du rapprochement en 71. Et ben non, quoi. Le ping-pong va retourner aux oubliettes très vite.
Alors, est-ce que Zhuang Zedong, qui est donc le grand champion chinois qui a tendu ce cadeau à Glenn Cowan, est-ce qu'ils se sont revus justement à ce deuxième voyage?
Ils se sont revus le jour de l'arrivée, quand ils ont atterri, parce que Cowan était parmi évidemment toute la délégation qui était allée un an plus tôt, plus les remplaçants, les machins, tout le monde était là sur le tarmac de l'aéroport quand ils sont arrivés, je crois que c'était à Détroit. Et donc là, ils se sont vus, et en fait, ils se sont vus pas très longtemps, parce que la réception qui a suivi le soir même, Cowan s'en est exfiltré assez rapidement et il n'a plus réapparu. Pour des raisons qu'on va développer probablement sur la personnalité de Glenn Cowan.
Allons-y, Nicolas Herbelot. Quelle est cette personnalité de Glenn Cowan ?
Cowan, c'est un enfant de New York, de la banlieue new-yorkaise, qui à l'adolescence est parti à Los Angeles avec son père, parce qu'ils avaient découvert ça lors d'un tournoi auquel il avait participé. Et la Californie, waouh, c'était génial. Mais son père décède alors qu'il est encore très jeune, il a 16 ans, et il vrille. il brille complètement, il se laisse pousser les cheveux, il fume, etc. Et on ne sait pas jusqu'à quel point il avait un trouble héréditaire, ou si c'est la consommation de drogue à haute dose, l'un ayant pu entretenir l'autre aussi. Mais toujours est-il que dès son retour en 71 aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a un problème. Alors il profite médiatiquement dans un premier temps, mais il brille tellement, il dit des choses tellement insensées, il se voit tellement beau, il imagine qu'il va construire des trucs partout, enfin, il se voit comme un nouveau messie du ping-pong. Il passe des tests et là il est diagnostiqué schizophrène, bipolaire, etc. Donc on l'enjoint à suivre des traitements, il va de cure en thérapie, etc. Mais lui dit que c'est sa drogue à lui qu'il veut, c'est pas les médicaments qu'on lui donne, donc il continue de fumer, etc. Et donc en 72, quand la délégation chinoise arrive, c'est pour ça qu'il, très rapidement, il part, parce qu'il va pas. Il ne va pas. Et il sera constaté, d'ailleurs c'est un truc assez incroyable dans la vie de Cowan qui suivra, il est constaté que tous les mois d'avril, donc anniversaire de ce qui s'était passé à Nagoya, tous les mois d'avril, il revrira.
Et il meurt en 2004 dans une immense solitude.
Dans une immense pauvreté. Mais... En fait, ça n'a été qu'une lente, longue déchéance. Quoi. C'est-à-dire, dans un premier temps, il avait réuni quand même un peu de fonds et des soutiens et quelques connaissances. Donc,
voilà. Et une notoriété.
Et une notoriété. Il a un petit appart, un machin. Mmh. Et puis, à un moment donné, comme tous les mois d'avril, il disjoncte, il perd ses emplois, il perd son appart, il vit dans sa voiture, et puis au bout d'un moment, à force de vivre dans sa bagnole, il vit à la rue et il finit à la rue.
Yvan Gastaud, ça c'était pour le côté américain, le personnage, donc le pongiste américain. Quel est le destin du pongiste chinois de ce rapprochement sino-américain, Zhuang Zedong? C'est un destin très différent.
C'est vrai que Cowan a eu ce destin tragique et finalement n'a existé que par ce moment-là, parce qu'il n'était pas forcément la personnalité préparée pour l'être célèbre, et en même temps il n'était pas pratiquant d'un sport qui aux États-Unis avait de l'avenir à ce moment-là en termes de célébrité, je dis bien, hein. Et pour Zhuang Zedong, c'est assez différent, parce que lui, c'est un champion, hein, c'est un champion officiel au départ, hein, un champion du monde. Il a fait 3 championnats du monde victorieux, 61, 63, 65. Il a eu des premiers déboires avec le régime au moment de la révolution culturelle. Il revient comme un moitié sportif, moitié pongiste, moitié diplomate, on pourrait dire, dans ce contexte-là. Et on voit que cette histoire, on la comprend par rapport aux acteurs. Il resterait sans doute à l'écrire par le côté diplomatique et le côté des négociations secrètes, mais saura-t-on un jour? En tout cas, son histoire, c'est aussi une histoire qui va, après cet épisode, avoir pas mal de chaos. C'est peut-être le point commun avec Cowan, mais pas tout à fait au même niveau, puisque il sera très rapproché, notamment, du pouvoir, hein, puisqu'il va, en 1974, devenir ministre des Sports, ce qui n'est pas proprement illogique, compte tenu de son action, 74, et puis... Il va connaître la disgrâce avec la fin de Mao, qui meurt en 76, et son premier ministre, Chou Enlai, qui meurt aussi en 76, quelques mois plus tôt. Lui, qui avait été taxé de relations parfois intimes, alors on n'a jamais trop su, avec l'épouse de Mao, hein, eh bien, sera lui aussi tombé en disgrâce, et pendant les années qui vont suivre, une bonne décennie, il va être emprisonné, il va connaître le déshonneur à son tour, avant de revenir un tout petit peu en grâce, au milieu des années 80, lorsque la Chine s'ouvre davantage au sport, notamment, lorsqu'il va devenir professeur, mais finalement, dans un second cercle, on pourrait dire. Et sa vie, il la termine, il meurt d'un cancer en 2013, comme un porteur de mémoire, on pourrait dire, de cet épisode, de cet événement. Plus entendu que Cowan, c'est certain, mais quelqu'un qui, finalement, n'a pas joué un rôle très important non plus après cet épisode.
Il faut savoir que dans la culture populaire américaine, cette affaire de diplomatie du ping-pong a frappé les esprits au point d'apparaître en filigrane dans un film culte des années 90, Forrest Gump.
Je croyais que j'allais retourner au Vietnam, mais au lieu de ça, ils ont décidé que le meilleur moyen pour moi de combattre les communistes était de jouer au ping-pong. Alors je suis passé dans les services spéciaux, à voyager à travers le monde pour remonter le moral des infirmes de guerre, montrer comment on joue au ping-pong. J'étais si doué que quelques années plus tard, l'armée décide de me mettre dans l'équipe nationale. Nous fûmes les premiers Américains à visiter la Chine depuis 1 million d'années ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a dit que la paix mondiale était entre nos mains. Mais tout ce que j'ai fait, moi, c'était jouer au ping-pong. En rentrant chez moi, j'étais une célébrité nationale. Même beaucoup plus célèbre que Pinocchio.
Nicolas Herbelot, vous m'avez dit hors micro que c'est en revoyant ce film... Que
pour la 35e fois, voilà, moi, j'adore.
Et que vous avez eu le désir d'aller fouiller un peu le dossier.
Je me suis dit, qui était le Forrest Gump en vrai?
Et oui.
Qui était ce joueur de ping-pong? Enfin, quels étaient-ils, ces joueurs de ping-pong? C'était ça l'idée de départ. Et c'est intéressant parce que dans le film, ce sont des militaires. C'est-à-dire que on revient à cette idée justement qui était très chinoise, très organisée, alors que pas du tout dans les faits. Quoi. Glen Cowan n'était pas du tout...
C'était vraiment ambiance hippie. hippie et pas du tout militaire ni organisé. Ils vont le rappeler, ils ont payé eux-mêmes leur voyage pour participer à ces championnats du monde en 71.
Mais de la même façon que ce n'est pas Forrest Gump qui a inventé le running. Hein.
Oui. c'est tout à fait juste, il faut bien le rappeler. Yvan, passons de l'autre côté. Là, on parle de Forrest Gump qui est donc une sorte de monument de pop culture. Chez les Chinois aussi, ça a beaucoup marqué les esprits. Qu'est-ce que ça représentait pour le peuple chinois, cette diplomatie du ping-pong, Yvan ?
Alors, c'est vrai que pour les Américains, moi aussi, je suis un amateur de Forrest Gump. 94, ça a plus de 25 ans maintenant. Hein, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une manière de rappeler l'événement en le déformant et en l'inscrivant dans un film qui parle de militaire alors qu'il n'y a pas du tout, comme le disait Nicolas, de dimension militaire. C'est un peu différent du côté des Chinois qui ont... un rapport qui est un peu à géométrie variable en fonction de la manière dont la Chine se positionne dans l'échiquier au fil des années. Chose qui est très importante, c'est que la Chine, ça n'a échappé à personne depuis cette diplomatie du ping-pong à développer. Hein, et ça a été le cas dans les années 80 et surtout au moment des Jeux de Pékin en particulier. Et puis on attend les Jeux de Pékin d'hiver en 2022, hein, il faut pas l'oublier. Eh bien, à développer une diplomatie sportive, une importance donnée au sport qui est devenue phénoménale, hein, tout à fait marquante. Et je crois que tout commence peut-être avec cet épisode pongiste des années 60 et début des années 70. Alors la Chine commémore, hein, elle a récemment commémoré, hein, notamment à Shanghai, en grande pompe, cet épisode. Elle honore, hein, ceux qui sont encore vivants, des champions de cette époque-là. Donc Zhuang Zedong est décédé, mais d'autres acteurs témoignent. Et on en fait une forme de fierté dit beaucoup de choses sur la manière dont la Chine se veut être finalement très autonome dans ses décisions, autonome par rapport aux grands frères soviétiques à ce moment-là. Et donc cette question de la commémoration est intéressante. Elle est quelque part de nature à considérer que aujourd'hui on joue de cet événement pour montrer que la Chine effectivement est un pays qui compte et qui compte surtout pour la dimension sportive.
Pour conclure, Nicolas Herbelot, la Chine et les États-Unis sortent vainqueurs de cette diplomatie du ping-pong, mais est-ce que le grand vainqueur n'est pas le ping-pong lui-même ?
Il y a beaucoup gagné.
Oui, ouais, parce que c'était un sport de plagiste en vérité. Tout d'un coup, c'est devenu un sport troublant, crédible.
Ouais, j'en ai parlé avec Claude Bergeret, qui faisait partie des jeunes pongistes à l'époque et qui sera championne du monde en double mixte avec Jacques Secrétin quelques années après. Et elle m'a dit que dès l'année d'après, enfin, c'était devenu pour eux une sorte de passeport pour les médias, pour avoir des fonds aussi. Et ils ont pu voyager en Chine, qui était totalement fermée dès la fin 72. Dès après la venue de Nixon, les Français ont pu aller en stage en Chine, qui était quand même le pays qui savait le mieux faire en matière de ping-pong, etc. Et donc, elle a dit, enfin, clairement, ça a été une opportunité pour ce sport à l'échelle planétaire. Curieusement, finalement, ceux qui en profiteront le moins, ce seront les Américains, presque, parce que c'était un sport qui était peut-être condamné dès le départ à ne pas être très, très populaire là-bas.
Il devient olympique en 88, je crois, à Séoul, hein, le ping-pong.
Absolument.
Mais c'est vrai que les Américains n'ont jamais vraiment percé dans ce sport.
Non, ils ont eu quelques champions, mais sans plus, finalement. Et parce que les Américains n'ont pas une école de ping-pong. À l'image de Glenn Cowan, qui s'était fait lui-même en tapant des balles tout seul dans son garage, et ça n'a jamais été un sport où on est formé à l'université, etc. Mais la diplomatie du ping-pong, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a un cas unique. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de reproduction dans d'autres sports, par le biais de la lutte, par exemple, entre les États-Unis et l'Iran. Ça a été un échec, par le biais du basket avec la Corée, etc. Ça a été des échecs. C'est un 4 qui reste assez original.
Alors que là, Nixon et Mao finissent par se serrer la main, et le voyage de Nixon est resté gravé dans les mémoires, évidemment, américaines et mondiales, ce voyage de Nixon en Chine. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus ce soir. Je précise que vous pouvez retrouver le dossier complet consacré à l'histoire de la diplomatie du ping-pong avec une iconographie sur le site du journal L'Équipe. Il est signé Nicolas Herbelot. Et précipitez-vous sur les écrits consacrés à l'histoire du sport d'Yvan Gastaud, historien attaché à l'université de Nice. Merci beaucoup à vous deux, messieurs.
Merci Philippe.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter. Watched a fight between an artsy couple escalate. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a breath, you would hear me when I talk to you. Threw her necklace in his face.
screaming.
Caroline, chanson signée Arlo Parks. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, direction la Californie. Bonsoir Pierre-Étienne.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous.
Alors de quoi on cause ce soir ?
On va parler de Weezer, un groupe geek et pop originaire de Californie qui a sorti avant-hier son 15e album intitulé Van Weezer. Alors ça fait 30 ans que ce quatuor nous enchante avec ses riffs énervés et ses splendeurs mélodiques. Même les auditeurs qui ne connaissent pas Weezer ont forcément entendu, au détour d'une publicité, un des tubes du groupe, le scintillant Island in the Sun.
Alors, c'est charmant, mais oserais-je vous demander si Weezer a un rapport avec le sport ?
Le chanteur du groupe et son principal compositeur, Rivers Cuomo, se distingue par ses lunettes à monture noire et par son amour immodéré pour le soccer, le football tel qu'on l'appelle aux États-Unis. Un pays où les sports d'équipe les plus populaires sont le football américain, le baseball, le basket et le hockey sur glace, très loin devant le soccer.
Alors, pourquoi Rivers Cuomo a lui succombé au charme du ballon rond ?
Le virus lui a été transmis par son père, Frank Cuomo, qui avait prénommé son fils Rivers en hommage à trois joueurs du Mondial 1970. Deux Italiens, Giovanni Rivera et Luigi Riva, et un Brésilien, Rivelino. Frank Cuomo a quitté la mère de Rivers alors que celui-ci n'avait que 4 ans. Ensuite, cet enfant timide a pratiqué le soccer à haute dose afin de plaire à ce père qu'il voyait peu. C'est ce que Rivers Cuomo raconte dans le monologue poignant qui ouvre un de ses titres solo, Lover in the Snow, sorti en 2007.
Perhaps because my parents split up when I was four and because I rarely saw my dad as I was growing up, I romanticized everything about him. One of the things I romanticized was his passion for soccer. I tried to cultivate it in myself.
Y a-t-il d'autres morceaux, Pierre-Étienne, de Rivers Cuomo qui mentionnent le soccer?
Oui, que ce soit dans le cadre de Weezer ou de sa carrière solo, on trouve de nombreuses références à ce sport, comme si Cuomo cherchait à convaincre les Américains, par le biais de sa musique, de s'intéresser au soccer. Dans son titre « Girls Soccer » de 1998, il décrivait la joie simple d'une jeune fille qui file ballon au pied sur un terrain. 4 ans plus tard, dans « Hey Domingo », il a évoqué les déambulations festives de supporters dans les rues de Daegu, en Corée du Sud, pendant le Mondial 2002.
Et alors, y a-t-il des titres de Weezer qui sont entièrement dédiés au soccer, Pierre-Étienne ?
Eh bien, figurez-vous que Rivers Cuomo a signé 2 hymnes non officiels destinés à encourager la sélection américaine au moment d'une Coupe du Monde. En 2006, c'était « My Day is Coming », une supplique au piano, un peu déprimante, qui annonçait d'une certaine manière le fiasco à venir, puisque le Team USA s'était fait éliminer dès le premier tour cette année-là. En 2010, les Américains sont parvenus à atteindre les 8e de finale et cette fois, Weezer les avait accompagnés par une chanson énergique, Represent, qui débute avec le commentaire d'un but inscrit par le défenseur Jonathan Borstein contre le Costa Rica. On écoute.
Alors on est un peu loin de la pop scintillante que vous évoquiez en début de chronique.
Oui, Represent n'est pas forcément le titre le plus réussi de la longue carrière de Weezer. Ce qui prouve au passage l'immense difficulté que représente l'écriture d'un hymne entraînant à la gloire de l'équipe que l'on aime. Rivers Cuomo, malgré sa passion pour le soccer, malgré son incontestable talent de mélodiste, n'y est pas encore parvenu. Mais il pourra se racheter l'an prochain si la sélection américaine parvient à se qualifier pour le mondial organisé au Qatar.
En attendant, on peut donc écouter l'album Van Weezer, sorti avant-hier. À dimanche prochain, Pierre-Étienne.
À dimanche prochain.
Salut. Et voilà, cette 33e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Benjamin Troncin. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, Arnaud Jamin, Thierry Dupin et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec le destin d'un sportif soviétique et ascensionnel, le perchiste Sergueï Boubka. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.